dans le journal des rencontres des cinémas d'Europe, ici au centre Le Bourneau, salle 103, dans le studio Claude Lost. Aujourd'hui, nous allons parler de la rétrospective du cinéma de Chantal Akerman, la réalisatrice belge née en 1950 et qui nous a quittés en 2015. Pour ce faire, je reçois ici dans le studio Claude Lost, Cathy Géry. Bonjour Cathy.
Bonjour Olivier.
La programmatrice de ces rencontres à qui nous devons, je dois, d'avoir vu hier, par exemple, Una mort d'Isabelle Coixet, un film angoissant, troublant, je dirais, et que moi je trouve en même temps drôle, et dont je parle parce qu'il me semble présenter quelques affinités avec l'univers de Chantal Akerman. Avec moi également, René Sabaton. Bonjour René.
Bonjour à tous.
Que les auditeurs connaissent pour sa participation au journal, et puis également durant toute la saison à Cinémascope. Voilà, Olivier pour vous servir, et Chantal Akerman. Alors Chantal Akerman, réalisatrice un tout petit peu atypique, tout de même, j'ai en tête son premier long métrage, je crois peut-être, Hôtel Monterey, un long métrage d'une heure, qui se passe à New York, entièrement dans un hôtel assez pauvre, dans lequel se succèdent des plans fixes ou des travelling avant et arrière assez lents. Il y a très peu de personnages. Nous visitons par contre tout l'hôtel et même l'extérieur qui donne donc sur un quartier de New York qui n'est pas exactement Park Avenue ou Broadway. Et je trouve que ce film instaure un rapport sujet-objet évidemment assez frontal. Et j'en ai eu confirmation en regardant ensuite « Je tue, il, elle », qui est un film sorti en 1975, soit 3 ans après celui dont je viens de parler, « Je tue, il, elle ». Un cinéma pauvre, d'une certaine manière, encore une fois, avec l'histoire d'une femme qui écrit son journal dans sa chambre, s'adresse donc à quelqu'un d'autre qui est tué. Elle sort, elle rencontre un camionneur joué par Neil Sarostrup, c'est il. Et puis elle rencontre une amie, peut-être un peu plus, c'est elle. Et donc on voit que dans le geste dans lequel elle instaure un rapport sujet-objet, on voit donc avec ce deuxième film que se pose un problème autour de la constitution même du sujet. On est à la recherche du pronom personnel. On a aussi la question des pronoms personnels au pluriel. Ils sont absents, comme s'il y avait une difficulté à rencontrer les autres collectivement. Voilà, c'est un peu l'image que je me suis fait de l'univers de Chantal Akerman en l'abordant par ce moyen-là. Chronologique, c'est d'ailleurs la chronologie qui est respectée dans cette rétrospective, puisque elle s'ouvre avec Jeanne Dillmann, 1080 Bruxelles. Elle se pour donc qui est de 75 comme je tue là, elle. Golden 80s ensuite, 1986. Test, 1993. Et La Captive 2000. On suit donc bien. Moi, je me suis proposé, je ne sais pas ce que vous en pensez, comme vous êtes des familiers de Cinémascope, et pour les auditeurs, je m'étais proposé d'adopter le format un peu Cinémascope, de manière en particulier à ce qu'on n'oublie pas que le cœur des rencontres, ce sont quand même les films, hein, et qu'on ne dilue pas les films dans les rencontres, d'une certaine manière. Voilà. Jeanne Dillmann est sorti en 1975. Il raconte l'histoire d'une veuve, jeune encore, qui partage son appartement avec son fils. Un tête-à-tête et un huis clos, à quelques exceptions près, un peu étouffant. Cathy, qu'est-ce que tu dirais d'abord de ce film ?
Alors, si je peux déjà juste dire pourquoi Chantal Akerman
oui,
rencontre. En tout cas, bon, il se trouve que Caprici a la très bonne idée d'avoir numérisé les films de Chantal Akerman, qu'on ne voyait plus forcément en salle. Donc, c'était une très bonne idée de pouvoir présenter toute une filmographie de cette superbe réalisatrice. Et j'en ai choisi seulement quatre. Et j'ai essayé de, justement, commencer par le tout premier, qui a quand même marqué, on va dire, l'histoire du cinéma avec Jane Dillman. On va revenir dessus. Et puis, d'autres films, en tout cas, documentaires comme Dest, par exemple, ou Golden 80s, qui sort un petit peu de sa filmographie habituelle, on va dire, mais qui n'est pas pour autant une comédie romantique à part entière. Et puis, pour finir, pour un film plus récent, comme La Captive. Et moi, ce qui m'intéresse, comme vous le savez, c'est quand même cette place des femmes dans le cinéma et de les valoriser le plus possible et de faire connaître aussi des personnages, des cinéastes dont on a entendu parler, mais dont on n'a pas forcément vu les œuvres. Et un monument comme Jane Dillman, forcément, c'est pas facile pour une exploitation courante. De le programmer, 3h20. Bon, il y en a d'autres, hein, films de 3h20 qui sortent maintenant, mais il y en a quand même pas non plus énormément. Et c'est toujours un peu compliqué de les faire entrer dans une grille de programmation. Surtout quand c'est un film quand même atypique comme celui-là. Et je trouvais formidable de pouvoir en faire profiter des cinéphiles et puis des gens curieux de cinéma. Quand il est présenté à Cannes, ce film, en 75, c'est révolutionnaire. Alors, il y a des gens qui quittent la salle, forcément, parce qu'ils n'ont pas envie de voir ça. Et y a des gens qui sont subjugués par l'audace de cette jeune, parce qu'elle a 23 ans, je crois, à l'époque, enfin 24 ans, donc elle est quand même toute jeune, et qui prend complètement à contre-pied tout ce qui se fait, ou tout ce qui commence à se faire dans le cinéma. Et moi, j'aime sa philosophie. De dire, il y a plein de gens qui vont au cinéma qui disent « Oh là là, j'ai vu un film, j'ai pas vu le temps passer ». Et là, c'est tout l'inverse qui se passe. Là, on va te montrer une femme qui, en temps réel, qui va peler ses patates, se brosser les cheveux. Enfin bon, c'est tout l'inverse et c'est ce contre-pied-là, enfin, cette liberté qu'elle a eue et cette audace que moi qui m'ont fascinée. Oui, dès le départ.
Et qui déstabilise. Elle-même, elle a été, semble-t-il, fascinée par Pierrot le Fou de Godard. Et c'est ce qui lui a mis un peu le pied à l'étrier, comme on dit, cette expression un peu stupide. Mais enfin. Donc, elle a été frappée par une nouvelle façon de faire le cinéma, déjà, quoi.
Ah oui, oui. Ah bah oui, bien sûr. Et on ne va pas pour autant la raccorder à la nouvelle vague.
Oui, pas du tout. Oui.
Pas du tout, hein, parce que pour la nouvelle vague, c'est beaucoup plus tôt. Mais c'est quand même une envie d'avoir, de montrer
le réel.
Le réel. Et puis, féminisme aussi. Une vie de femme. Quelconque, on va dire.
En apparence.
En apparence.
Seulement. Ouais. René, si tu devais piocher, je te demande d'ailleurs de le faire si tu veux bien, René, de piocher dans cette rétrospective.
Alors, justement, en ce qui concerne Jane Dillman, deux choses. Le casting, d'abord, le choix de Delphine Seyrig, qui était très inattendu. Parce que Delphine Seyrig, on avait l'habitude de la voir dans des rôles de bourgeoise, de grande dame. Oui. Et là, elle choisit cette femme pour jouer le rôle d'une femme très ordinaire. Et elle s'en est expliquée. Elle dit, si j'avais choisi une actrice qu'on a l'habitude de voir dans des rôles de femme très ordinaire, ça n'aurait pas marché. Là, les gens, ils voient ça. Ils disent, Delphine Seyrig en train de peler des patates. C'est pas possible. C'est un exemple de casting absolument génial.
Jamais voulu faire Delphine Seyrig dans la vie, en fait. Enfin, en tout cas, elle voulait pas cette vie, cette actrice. Enfin, elle voulait pas vie de femme au foyer.
Bien sûr. Il y a de l'ironie en plus. Et la deuxième chose qui m'a vraiment intéressé, c'est la notion de rituel. Ackerman explique dans une vidéo qu'elle a été élevée dans une famille juive, qu'ils étaient très influencés par le rituel religieux juif, qu'ils essayaient de le transposer, inconsciemment sans doute, au niveau de leurs activités quotidiennes, la façon de servir le thé par exemple. Et on retrouve ça exactement dans le film. Et dès qu'elle se pose, dès qu'elle sort du rituel, l'angoisse monte, on voit ses plans où elle est assise sur un fauteuil, ça va plus. Et chose très intéressante, 25 ans après, le neurologue Boris Cyrulnik écrit un livre dans lequel il dit « le rituel nous protège ». Et dès que l'on sort du rituel, l'angoisse, la violence risque d'apparaître. C'est exactement ce que montre ce film, avec une prescience psychologique absolument remarquable.
Oui, oui, c'est ce que j'essayais assez péniblement de dire en introduction, qu'il y avait une problématique de constitution du sujet face à l'objet, et puis avec aussi cette problématique de le sujet qui se sent en danger de devenir objet lui-même, c'est-à-dire servile, c'est-à-dire esclave, objet, quoi, d'une certaine manière. Tu parlais à l'instant, Cathy, d'un film qu'il ne fallait pas prendre pour une comédie romantique comme les autres. Donc c'est le deuxième par ordre chronologique de la rétrospective. Il s'agit de Golden 80s. Tu peux nous en dire deux mots ?
Alors, sur Golden 80s, c'est une comédie musicale qui va principalement, enfin j'ai l'impression de parler quand même de... Je ne sais pas si on dit dénoncer, mais enfin parler de consumérisme, parler de féminisme, et il y a la question de l'identité aussi juive, enfin qui revient aussi. Hein, voilà. Il faut savoir que Chantal Akerman voulait avoir beaucoup plus de moyens pour ce film qu'elle n'a eu. Et elle n'a pas eu les financements qu'elle souhaitait, donc elle l'a fait avec, elle a réduit un peu et peut-être que c'est plus cheap qu'elle aurait aimé, mais en tout cas, je pense que c'est quand même quelque chose qui fait face à c'est un peu un anti-romantisme pour autant, mais après c'est coloré, c'est vivant, c'est drôle, mais en fond, on a cet enfermement et cet ennui là, enfin, qui revient. Quoi.
Ce sont cinq jeunes filles qui...
Cinq jeunes filles, oui, dans une galerie marchande. Et alors, il y a une unité de lieu, c'est-à-dire qu'on est dans cette galerie. On ne voit pas la lumière du jour.
Ouais.
Et on est en permanence. Et on retrouve Delphine Seyrig qui est également dans le rôle de Jeanne, je crois qu'elle s'appelle.
Toujours.
Toujours.
Et Delphine Seyrig a donc apparemment soutenu Chantal Akerman pendant... un moment, parce que c'est quand
financièrement,
même...
Financièrement, tu veux dire?
Par sa présence, déjà.
Ah oui, oui, oui.
Oui, à l'époque, on n'était pas connu. Elle a accepté de jouer dans Jeanne Dielmans, alors qu'à l'époque, personne ne connaissait Akerman.
Ouais.
Ah ben, tu parles 24 ans, elle est... Enfin, voilà.
Oui, alors que Seyrig était une actrice très connue à l'époque.
Oui, bien sûr.
En préparant cette émission, René m'a expliqué qu'il avait été voir La Captive.
Oui.
C'est ça.
Ah, oui.
Et alors, au risque de bouleverser, mais pour qu'on alterne un peu la chronologie, puisque La Captive est sortie en 2000, j'aurais aimé avoir quelques échos de ce film que je n'ai pas pu voir.
Il faut que tu ailles le voir.
Je le ferai, surtout que j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un...
Adaptation.
C'était inspiré.
Voilà. Enfin, c'est pas adaptation, c'est inspiré de.
Inspiré
librement
de.
Inspiré de.
Oui. Très librement inspiré de. Vous avez deviné. Moi aussi, je m'inspire du vocabulaire pour créer de nouveaux mots. De La Prisonnière. Évidemment, Marcel Proust, donc encore sujet, objet, encore enfermement, huis clos, etc. René ?
Oui. Alors, oui. Alors, on peut parler d'emprunt, inspiré, pas adapté, mais en même temps, je trouve qu'elle recrée bien l'univers proustien. Hein. Elle s'y sent à l'aise, visiblement. Et alors, ce qui est intéressant dans ce film, mais dans les autres aussi, c'est sa façon d'aborder la question de l'espace et du temps. L'espace qui est le cadre dans ce film en particulier, mais je répète pas que dans ce film, c'est l'espace psychologique des personnages. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Exemple, l'appartement de Simon, le personnage principal, c'est un côté labyrinthique, des couloirs, des pièces filmées uniquement en partie, l'alcôve où dort Ariane qui fait un peu cage en quelque sorte, avec la lumière au service de tout ça. On est dans un espace mental, un espace obsessionnel, puisque c'est quelqu'un qui est dévoré par la jalousie. De la même façon, il y a ces très nombreux plans séquences dans une voiture, un espace exigu par définition, étriqué, qui souligne bien cette obsession. On pourrait dire la même chose du temps, mais tu l'as dit tout à l'heure, Cathy, elle, effectivement, elle dit ce que tu disais, je le répète rapidement, on ne devrait pas dire, je n'ai pas vu le temps passer, au contraire, on devrait dire, quand on sort d'un bon film, j'ai apprécié le passage du temps. Et là, je veux dire, elle s'en donne à cœur joie.
Ah oui.
Oui, c'est d'ailleurs un élément de la recherche du temps perdu chez Proust qui est vraiment important parce que justement, il essaye, en même temps qu'il essaye de fixer la personne d'Albertine, il aimerait bien aussi fixer le temps. Ouais. Et quand Albertine disparaît, c'est une partie de sa mémoire et de son temps qui disparaissent aussi.
Un tout petit détail, pour montrer l'inventivité de la mise en scène. Dans le roman, Proust explique qu'il y a deux baignoires séparées par une cloison de briques très mince. Il entend ce que chante Albertine de l'autre côté de la cloison. Là, il a remplacé ça par un panneau de verre translucide, mais pas transparent, que dans le roman est sur une fenêtre. Elle l'a transposé là et ça donne des effets de mise en scène superbes. C'est vraiment quelqu'un d'impressionnant, ce cinéma, je trouve.
Et alors, si j'ai bien compris, le huis clos de la voiture est en miroir avec le huis clos de la chambre, d'une certaine manière, un petit peu comme la calèche et la chambre dans la prisonnière de Proust. Proust. Ouais. Je voulais savoir si l'enclos dans lequel elle maintient sa captive était aussi une prison dorée, un peu. Parce que...
Tout à fait. Il se balade en Rolls. L'appartement est un appartement hyper bourgeois. Les seuls plans de Paris sont les Champs-Élysées. On est dans un monde totalement artificiel.
Oui. Parce que c'est ça qui est quand même troublant. Bon, Marcel Proust, c'est un secret pour personne, avait à cette époque-là beaucoup d'argent. On avait vraiment ce qui s'appelle beaucoup d'argent.
Oui, famille riche, c'est clair.
Oui, très riche. Et par conséquent, il vivait dans une espèce de luxe tout à fait insolent. Hein. Donc ça remet en lumière la dimension de la consommation et de ce délire d'objets, d'objets, pas seulement des objets de la consommation courante. En venant ici, j'ai vu un téléphone Orange des années 70. voilà un objet de consommation qui pète. Et bien sûr, il y a des objets. Dans Jeanne Dielman, je finis par plus savoir qu'il y a un briquet Dupont qui circule. Non, j'ai oublié. Non, je dois mélanger avec Ma vie, ma gueule. Je suis désolé. Je suis profondément désolé. Je vois trop de films en ce moment. C'est le fameux briquet Dupont. C'est dans Ma vie, ma gueule. Désolé.
Mais vous qui avez travaillé sur l'adaptation de romans au cinéma, il faudrait vraiment que vous le voyez. Toi, tu l'as vu, mais toi, il faudrait que tu le vois. Parce que il n'est pas adapté de Proust, mais quand même, je veux dire, c'est pas étranger à l'œuvre de Proust. Hein.
Quand on a fait ces émissions avec Cathy, un livre, un film, on s'était rendu compte, je crois pas trahir, elle m'arrête si je dis des choses qui ne sont pas, mais on s'était rendu compte que chaque cas, et on en a quand même vu pas mal, chaque cas était vraiment original. À chaque fois, le rapport du film au texte est différent.
Oui, et puis c'est André Bazin aussi qui le disait, mais en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise adaptation. En fait, il y a des inspirations, ce qui donne à voir ou ce qui donne à lire. Enfin, c'est important. Les deux sont importants en fait, et peu importe si c'est une bonne ou une mauvaise adaptation.
C'était d'ailleurs la conclusion de beaucoup de nos émissions, c'est-à-dire que un livre, un film, c'était une occasion de doubler le plaisir, de voir.
Ouais.
D'entrer en contact avec deux œuvres au lieu de rentrer en contact avec une seule. À la limite, la dimension d'inspiration, d'adaptation, elle devient presque accessoire au vu de cette mise en rapport avec deux œuvres différentes, quoi. Et je pense que Chantal Akerman a ses fans. Il ne fait aucun doute que Marcel Proust a ses fans, j'en suis. Et que, bien sûr, si on peut redoubler le plaisir, c'est toujours bon à prendre, évidemment. Le plaisir, et puis ce plaisir esthétique qui est évidemment d'un tout autre niveau. Il y a, si on rebouleverse dans l'autre sens la chronologie, il y a un autre film d'Est. Alors pour moi, un peu énigmatique, un film de 1913, énigmatique, donc je compte sur Cathy pour m'expliquer de quoi il retourne.
Non, bah c'est trop dans ambitieux, ça. C'est trop ambitieux. Je ne suis pas certaine d'avoir la réponse à ta question. Elle a fait une série de documentaires, hein, Sud, Nord, c'est ça, d'Est, voilà. Et là, elle a posé sa caméra dans différents pays après la chute du mur de Berlin. Et ce que je trouve intéressant dans le film, c'est qu'elle a surtout montré des gens, en fait. Là encore, une humanité. Enfin, elle ne s'est pas posée sur des décors, des choses comme ça. Je trouve qu'elle filme la vie, elle filme des gens, des visages. Enfin, c'est montrer l'après. La chute du communisme, enfin voilà, qu'est-ce que ça donne, quoi. Enfin, comment ça se passe, comment les gens vivent, comment ils sont, voilà, c'est surtout ça, moi, que j'ai vu.
On retrouve un peu cette thématique d'un ensemble fort clos, comme ça, qui peut être le sujet, qui peut être l'objet, ici, qui peut être un espace, qui peut être aussi un temps. Et puis, il y a effraction et remise en cause de l'organisation initiale. J'ai un bon pote qui est arrivé à Berlin l'année qui a suivi. Et effectivement, cette impression que tout volait en éclats, que tout partait, mais comme un feu d'artifice, hein, avec un côté joyeux, une effraction joyeuse, c'est un peu un thème qu'on retrouve. Bon, il faut qu'on va pas évidemment divulgâcher Jeanne Dielman, mais là aussi, il y a une effraction qui permet de sortir de l'univers clos.
Mais ce que tu as dit, là, d'Est, c'est plutôt, j'allais dire, un peu sinistre, ou plutôt...
C'est-à-dire que ça montre à la fois une peur et le vertige de l'après, enfin, tu vois, Enfin, moi, j'ai trouvé qu'à travers ces gens, ces populations qu'elle montre, après l'effondrement, on sent cette peur, en fait, de l'après. Qu'est-ce qui va vraiment se passer, en fait ?
Qu'est-ce qui va se passer ?
Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce que ça va être, en fait ? Ouais.
Et formellement, c'est pas un film où elle travaille beaucoup en tracking shot, comment on dit, en travelling ?
Oui, il y a beaucoup de travelling. Il y a des plans fixes, où là, on voit les plans fixes, on voit plutôt les gens venir à elle. Et après, elle a des plans en travelling où... On voit la
défiler.
Vie différente, défiler. Ouais, elle est sur deux principaux principales façons de faire des images.
Ces films sont évidemment pour certains encore à découvrir lors des rencontres des cinémas d'Europe. Jeanne Dielman, on peut le voir au Navire dimanche 24 à 16h30.
Oui.
Golden 80s, on peut le voir vendredi 22 et samedi 23, au Navire à chaque fois à 13h et 21h. Mm-hmm. D'Est se voit samedi 23 à 16h, toujours au Navire. Et La Captive se voit, probablement avec moi, samedi 23 à 18h30. Donc vous avez toute latitude pour voir ces films. Je vous rappelle bien entendu l'existence du guide des rencontres, qui est fort bien fait, qui permet facilement de circuler entre les films, les dates, les rencontres et éventuellement aussi les émissions de Fréquence 7. Les émissions de Fréquence 7, d'ailleurs, je tenais à le dire, sont audibles en replay sur le site de Fréquence 7. Il faut aller à replay, émission culturelle, onde curieuse. C'est là la ruse. C'est là que se cachent nos rencontres à l'onde curieuse. Cette rétrospective Chantal Akerman donc nous permet de faire ce que en général les rencontres nous permettent de faire, à savoir découvrir vraiment en profondeur le cinéma, ici une autrice. Est-ce qu'il y a déjà des retours, Cathy, de fréquentation, il y a déjà des éléments qui permettent de dire ce qui a plu, je suis assez curieux, en fait, c'est ma pure curiosité.
Les retours que j'ai sont plutôt très très positifs sur la programmation et sur les propositions aussi autour des films. Sur la fréquentation, à pas c'est à peu près comme l'an dernier, mais en fait on a commencé très fort l'an dernier, donc sur le premier week-end on était quand même en deçà de l'an dernier, mais c'est vrai qu'exceptionnellement l'année dernière ça avait démarré très très fort, donc il faut vraiment qu'on puisse attendre la fin de la semaine pour savoir si la mobilisation est aussi importante que l'année dernière, mais en tout cas nous on est plutôt contents des retours et de voir des gens sourire et heureux.
Oui voilà, j'invite conseil pratique mais sérieux à tous les auditeurs à consulter aussi les programmes journaliers qui apparaissent avec les premières séances supplémentaires.
Sachant qu'on ajoute des séances, je sais que Flo est très publicité, on a rajouté une séance sur Gloria aussi, sur Miséricorde de Le Guéraudy.
Voilà.
Et il y en aura d'autres.
C'est important de surveiller ça si vous avez tapé du nez contre la porte.
Justement, un détail, hier j'étais à la projection de Captive et Véronique Lebris s'est félicitée du fait que la salle était presque pleine. Elle avait l'air de pas trop s'y attendre, elle se disait c'est un cinéma difficile, mais non, il y avait beaucoup de monde.
Mais je suis assez contente parce que sur les projections de Chantal Akerman, de même que sur les projections de Teuvo Tulio, le cinéaste finlandais des années 40 qui a beaucoup inspiré Aki Kaurismäki, il y avait aussi du monde, donc je suis très heureuse que les gens soient curieux.
Voilà, allez vous faire des toiles pendant le temps qui reste, et il en reste. Nous étions au studio Claude Lost, en salle 103 du centre Le Bourneau pour le journal des rencontres des cinémas d'Europe. Et je vous quitte jusqu'à la prochaine fois, c'est dans pas longtemps. En attendant, un conseil de lecture de Julien Poujade.
Oh, et un petit instant lecture maintenant avec Julien de la librairie des rencontres qui est venu nous parler d'un livre. Julien, salut.
Salut.
Qu'est-ce que tu as dans la main ?
Eh bien, j'ai un livre, alors un poche, donc même pas cher, d'un livre. Alors, c'est de la littérature, mais de la littérature qui va aller dans le domaine de la science-fiction. Alors, ça peut faire peur à certains et certaines, mais la science-fiction, moi, c'est un genre que j'adore, hein, que je lis régulièrement. Et celui-là, je trouve qu'il est excellemment bien écrit. Et à la fois, il va aller sur des thématiques, on va dire, diverses et variées. Donc, on va retrouver... C'est une jeune fille, en fait, qui est orpheline. Non, pas tout à fait orpheline, mais en tout cas, qui a vécu un drame dans sa vie, qui a perdu sa sœur, et qui va se raccrocher, on va dire, à la littérature. Et c'est montrer comment la littérature peut être une bouée de sauvetage pour certaines personnes face à certains drames. Et elle, c'est une passionnée de science-fiction et elle lit tous les auteurs de science-fiction. Donc elle a 15 ans, 16 ans et elle est très avancée pour son âge. Et donc du coup, elle découvre, parle beaucoup de toutes ses lectures et c'est passionnant. Parce que si vous connaissez pas la science-fiction, après, vous en connaîtrez beaucoup sans l'avoir lu. Mais ça donne vachement envie de lire ces romans-là. Et puis c'est une histoire quand même d'une adolescente qui découvre ça. Et il y a quand même une part de science-fiction, parce qu'à un moment donné, la magie, là, c'est quelqu'un qui croit ou qui voit, en fait, le petit monde. Donc, c'est, voilà, on est vraiment dans... Alors, en Angleterre, je dirais Pays de Galles, hein, je me rappelle plus exactement l'endroit, mais en tout cas, les anciennes régions minières. Et elle parle de tout cet univers-là, en fait, des petits mondes où sa sœur et elle parlaient et discutaient avec tous ces trolls, elfes, etc.
Mais alors, tu as tenu tous les auditeurs, toutes les auditrices en haleine, mais ils se demandent, mais quel est ce livre, puisque tu n'as pas donné ni le titre ni l'auteur?
Eh bien, le titre et l'auteur, c'est Morwenna de Joe Walton. Voilà. Et très, très, très bien écrit aussi, également. Il a aussi un prix, j'imagine. Voilà, c'est l'auteur vient du Pays de Galles. Voilà. Et il a eu le prix Hugo, le prix Nebula et le British Fantasy Award. Donc il a eu tous les prix, on va dire, en science-fiction. Mais il est tout à fait lisible. Alors je discutais, c'est marrant, à la librairie avec une lectrice qui n'est pas du tout habituée à ça, mais que sa petite fille lui a fait lire. Elle dit, tu devrais le lire comme ça. Donc elle y a lu, elle s'y est tenue. Elle m'a dit qu'elle a adoré ce livre. Donc ça m'a fait plaisir que, comme il peut y avoir des passerelles entre les genres. Voilà.
Voilà, du cinéma au livre, à la science-fiction, et re au cinéma. Merci beaucoup, Julien. On rappelle Joe Walton, Morwenna, et c'est donc à la librairie des rencontres, et plein de conseils à la librairie des rencontres, j'imagine, et plein d'échanges, comme avec cette dame.
Oui, tout à fait, oui, c'est un lieu qui est vraiment très chouette pour discuter, échanger, et puis on a des supports, on va dire, les livres sont des fabuleux supports pour ça.
Merci beaucoup, Julien.
Merci.